Bonjour Éric Anceau, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, spécialiste entre autres du Second Empire et de tout le 19e siècle. Et en cette rentrée éditoriale, vous vous retrouvez véritablement au centre des publications. On retrouve votre livre dans toutes les grandes librairies de France, un véritable monument de 1100 pages, une nouvelle histoire de France, publiée aux éditions Passé Composé. Alors, dans la gestation du projet, d'où ça vient? Est-ce que c'est une idée personnelle ou une demande de l'éditeur?
Merci Michel pour cet entretien. Merci à la librairie Mola de me recevoir. Effectivement, le livre marche très bien. Il est sorti le 1er octobre et beaucoup de recensions déjà dans la presse, très positives. Et puis les ventes, il se vend très bien. Donc je ne vais pas me plaindre. Alors pour répondre à votre question, en fait, c'est lors d'un déjeuner que j'avais fait avec mes éditeurs, Passé Composé, donc Nicolas Grappaillin, le directeur, Arthur Chevalier, l'éditeur, on débat des livres que j'aimerais bien faire à l'avenir, et je leur dis, bah voilà, il y a un livre qu'il faudrait faire, me semble-t-il, pour trois raisons. La première raison, c'est proposer aux Français un livre qui soit à la fois très encyclopédique, qui couvre absolument tous les aspects de l'histoire de France, et en même temps ludique, c'est-à-dire mettre les plus grandes plumes françaises parmi les historiens, mais aussi quelques sociologues, philosophes, etc., mais à la portée, je dirais, de tous les Français, donc dans un style très fluide du récit. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu, depuis que sont sortis, parce qu'il y en a d'autres, hein, on n'est pas les premiers, bien évidemment, de grandes histoires du même type, il y a eu de profonds renouvellements historiographiques, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et me semble-t-il, on était à l'époque au printemps 2023, le temps était venu de faire un point qui propose ce panorama historiographique nouveau. Et puis, il y a une troisième raison, et là, on est rentré complètement en phase avec l'éditeur, qui avait lui-même d'ailleurs cette idée. Donc, ils ont dit tout de suite, oh, formidable, on va te confier le projet. C'est qu'on est dans une période, vous le savez tous, extrêmement anxiogène. La crise politique, institutionnelle, économique, sociale, un climat d'insécurité culturelle, pour reprendre la formule du politologue Laurent Bouvet. Et il s'agissait de sortir des querelles et des polémiques trop nombreuses que nous avons en histoire, en proposant quelque chose, voilà, qui ne soit pas du tout dans la polémique, qui rassemble, qui ne cache rien des pages noires de l'histoire de France, mais qui montre aussi que l'histoire de France a des pages glorieuses et qui les propose comme ça au grand public.
D'accord. Alors, cette histoire se présente comme un dictionnaire. Elle est donc différente de toutes les histoires parues qui sont dans la continuité qui l'ont précédée. Par contre, récemment est sortie l'histoire mondiale de la France sous la direction de Patrick Boucheron aux éditions du Seuil, qui a d'ailleurs été réédité tout récemment. Dans la méthode comme dans les objectifs, est-ce que vous pourriez cerner les différences qu'il y a ?
Patrick Boucheron, donc, il a édité pour la première fois ce livre qui, comme vous l'avez rappelé, Michel, vient de ressortir dans le cadre de Blois, de la sortie de notre propre livre, voilà, pour créer le débat. Mais quand le livre est sorti en 2017, l'idée de Patrick Boucheron, il était double. C'est de proposer aussi un grand récit aux Français en proposant des dates parfois très originales qui n'avaient jamais été abordées. Et bien évidemment, il a dû faire des choix et donc des événements canoniques de l'histoire de France était oubliée. Je donne un exemple pour la guerre de 14-18. La bataille de Verdun n'était pas abordée, mais pas plus que les taxis de la Marne ou la bataille de la Somme ou l'armistice. On avait choisi d'aborder quelque chose qui était un angle mort de l'historiographie, c'est-à-dire la révolte des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Ça a permis d'ailleurs de montrer cette révolte. Et puis, l'objectif quand même de Patrick Boucheron, et on le voit bien dans l'introduction qu'il avait donnée, était de voir en fait tout ce que le monde avait apporté à la France. Alors, moi, je dirais, notre optique, elle est doublement différente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une visée encyclopédique. Donc, nous, il y a tout. Il y a les événements majeurs. Hein, le lecteur ne sera pas perdu. Ils sont tous là. Et puis, on essaie de faire découvrir des choses qui font réfléchir, un peu comme le voulait Patrick Boucheron. Et puis, il y a une deuxième différence, c'est que nous, bien évidemment, ce n'est pas du tout une histoire de France recroquevillée qu'on propose. C'est une histoire qui montre tout ce que le monde a apporté à la France, mais aussi tout ce que la France a apporté au monde. C'est, si vous voulez, dans les deux sens que ça se passe.
D'accord. Alors, la publicité de l'éditeur, le bandeau qui est sur le livre, annonce 100 historiens. historien, philosophe, vous venez d'y faire allusion. Comment s'est effectué le choix des auteurs et la sélection des entrées, des notices? Ça n'a pas dû être facile.
Non, merci. Merci, Michel. Et donc, en fait, oui, ils sont historiens et historiennes, mais comme vous le dites très bien, alors 100, ils sont bien 100, hein, je précise, c'est le chiffre, on voulait un chiffre très très précis, 100 auteurs, 100 chapitres. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, il y a une grande majorité d'historiens et d'historiennes, hein, 83, mais il y a 17 collègues qui viennent d'autres disciplines. Je vais vous donner quelques exemples, philosophes, sociologues, mais aussi, il se définit comme historien, Marcel Gaucher. Vous avez Jean-Robert Pitt, qui est géographe avant tout, mais il fait beaucoup de géographie historique. Vous avez mon collègue de droit constitutionnel, Frédéric Rouvillois, etc., etc. Donc, on a fait appel également à des collègues d'autres sciences humaines et sociales, mais qui tous ont joué le rôle de mettre le propos qu'on leur a donné en profondeur historique. Alors, j'ai procédé, la question m'a été beaucoup posée là, dans les entretiens que j'ai donnés depuis la sortie du livre, parce qu'on dit, bah voilà, il manque un tel, un tel, un tel. Moi, j'ai procédé très simplement, je ne suis pas parti des auteurs, comme dans d'autres ouvrages collectifs, je suis parti des thématiques. J'ai listé toutes les thématiques qui nous permettaient de couvrir toute l'histoire de France, et après, j'ai fait une liste d'auteurs qui me semblaient incontournables, qui étaient, selon moi, les meilleurs spécialistes, ceux que je voulais avoir dans le livre, sans aucune exclusive. Et après, bah, j'ai pris mon téléphone où j'ai envoyé des courriers électroniques et j'ai eu le bonheur, ce qui montre l'importance de l'enjeu et du sujet, que j'ai essuyé très très peu de refus. On en évoquera peut-être un ou deux tout à l'heure, mais je crois ne pas me tromper en disant que allez, j'ai dû solliciter au total 105 ou 106 personnes sur 100 qui finalement sont là. Donc vous voyez, très très peu de refus, 5 ou 6 sur 100.
Oui, effectivement, c'est un taux qui est...
rare, hein.
Oui, c'est rare. Alors, on a des éclairages qui sont très variés. C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité du livre. Est-ce que ça ne ressemble pas parfois à un puzzle, à une mosaïque où chacun peut se diriger vers la période qu'il préfère, en fonction des thèmes, en fonction des besoins aussi? Qu'est-ce qui fait l'homogénéité de l'ensemble? Je suppose la direction d'ouvrage, ça a dû être un énorme travail d'ailleurs d'homogénéiser tout cela.
Alors, je dirais qu'on prend quand même le lecteur par la main, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on démarre par un grand récit, hein, qui part des Francs et qui va jusqu'au temps présent. Après, vous avez entièrement raison, Michel, c'est thématique. On a retenu un plan thématique avec l'idée de tout couvrir, de montrer toutes les facettes. Hein. J'aime bien l'idée de la mosaïque que vous avez utilisée. J'utilise parfois l'idée du kaléidoscope pour recomposer le panorama français dans toute sa variété. Et puis, proposer différentes lectures. Vous avez raison, parce que c'est un gros pavé, on ne va pas se le cacher. L'ouvrage fait 1100 pages. Je vais peut-être décourager certains lecteurs en disant ça. C'est écrit en petit. Il y a aussi des éclairages. Mais alors, à la fin, on propose différents parcours. C'est-à-dire qu'on peut le lire de façon linéaire ou on peut picorer, hein, à travers le livre. Il y a d'autres parcours qui sont possibles. Il y a deux index également. Un énorme index des noms de personnes. Et le jeu, depuis que le livre est sorti le 1er octobre, c'est de me dire « Ah, vous avez oublié, parce que quelqu'un lit un chapitre, vous avez oublié telle personne. » Et je le renvoie à l'index, mais non, regardez, il n'est peut-être pas dans le chapitre que vous pensiez, parce qu'on veut un peu vous surprendre, mais il est dans l'autre chapitre, votre personnage est bien là. Et puis on a un index également des longs de lieux, et on se promène à travers toute la France profonde, les grandes villes, les régions, mais également les Outre-mer, et puis le monde entier, en fait.
Oui, l'index est absolument indispensable pour ce genre d'ouvrage. Alors, les rubriques sont classées dans un plan rigoureux, en 4 parties. Pouvez-vous présenter ces 4 grands thèmes qui scandent l'ouvrage, en quelque sorte ?
Exactement. Donc, une première partie qui est sous forme de récit, qu'on a appelé « Régime et violence », parce que c'est moi. Alors, c'est la partie, vous disiez tout à l'heure, ça a dû être dur. Oui et non, ça a été très simple pour la première partie, parce que je voulais, encore une fois, prendre le lecteur par la main, qu'il ne soit pas perdu, et lui proposer un grand récit qui part des Francs. Et c'est Bruno Dumézil, actuellement peut-être le plus grand spécialiste de l'histoire des Francs, qui nous propose ce chapitre.
Je le connais bien, c'est un ancien élève.
Ah, très bien, Michel. Et puis, on termine avec deux chapitres. Chapitre 5e République, Jean-François Sirinelli, grand spécialiste de l'histoire politique et culturelle du temps présent, et Aurélien Lignereux, qui a travaillé sur les violences et qui nous propose un chapitre violence contemporaine, pour montrer combien notre société est anxiogène, et puis revenir sur des mouvements comme les bonnets rouges ou bien encore les gilets jaunes. Donc on a cette première partie sous forme de récit, régime et violence. On enchaîne sur une deuxième partie que j'ai appelée politique et spiritualité. 100 chapitres, 25 chapitres par partie, donc c'est très équilibré. Je suis quelqu'un de, je crois, être un peu ordonné, un peu cartésien. Et dans la deuxième partie, on aborde toutes les politiques publiques. Je vais vous en donner quelques-unes. On a par exemple un chapitre sur l'enseignement et l'école, l'éducation. On a un chapitre sur l'environnement. On a un chapitre sur l'économie. On en a un autre sur science et innovation, etc. etc. Et puis les spiritualités. Donc le catholicisme, les pratiques religieuses, mais également le protestantisme, l'islam, juif et judaïsme, franc-maçonnerie, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième partie. On a une troisième partie qui s'appelle « Espace et société », où on commence par évoquer les trois grands moments de notre société, la société féodale, la société d'ordre d'Ancien Régime, que vous connaissez mieux que nul autre, cher Michel, et puis la société de classe, la société contemporaine. Et puis après, nous nous promenons au travers des espaces, puisqu'on voit le rapport de la France aux différents continents. Un chapitre, bien évidemment, sur l'Algérie, qu'on a confié à Jacques Frémaux, parce qu'il fallait voir ce lien très particulier entre la France et l'Algérie. Et encore une fois, en termes de mémoire, on sait tous les rejeux de cette très longue histoire entre la France et l'Algérie. Et puis, un chapitre sur l'Europe, la construction européenne, qu'on a confié à Éric Bussière. Et puis, nous avons une dernière partie qui s'appelle « Patrimoine et identité », où là, nous abordons à la fois les arts libéraux, en partant de la sculpture. C'est Anne Pinjot qui a créé le musée d'Orsay, le mot « créer » n'est pas trop fort, qui nous donne le chapitre sculpture, éminente spécialiste de la sculpture au 19e, et puis la peinture, et puis la musique classique, et puis l'architecture, etc. etc. Mais le patrimoine, ça n'est pas que ça, c'est également le sport, j'aime beaucoup le sport. Donc vous avez un chapitre sport, un chapitre Tour de France, vous avez la chanson populaire, vous avez l'histoire passion française, donc vous voyez, on promène notre lectorat un peu partout.
D'accord. Alors, un livre qui est, on l'a dit, très volumineux, une couverture qui est élégante, avec un fond rouge qui claque un peu, mais pas d'image, alors qu'il y en aurait beaucoup, beaucoup, peut-être trop finalement, pour incarner l'histoire de France. Pourquoi ? D'où ça vient ? Est-ce un souhait de l'éditeur ou justement une impossibilité de choisir entre plusieurs images ?
Alors là, vous avez entièrement raison, Michel. Alors bon, le titre « Nouvelle histoire de France », je le revendique. Les chapitres, les auteurs, le plan, je les revendique. On a simplement fait quelques tout petits ajustements avec mon éditeur qui a modifié des toutes petites choses. Par contre, la couverture relève de lui. Et on a beaucoup réfléchi au livre précédent que j'avais publié qui s'appelle « L'histoire de la nation française, du mythe des origines à nos jours », où il y avait également un fond tricolore, mais avec des couleurs inversées. C'était un fond blanc avec des caractères rouges et bleus. Et là, vous avez effectivement vu et dit que c'est un fond rouge. Ça claque. Simplement, sur le livre « L'histoire de la nation française », il y avait, vous le savez, « La liberté guidant le peuple », dont on dit également, puisqu'on s'est reporté à la correspondance de Delacroix, que c'était la nation, et donc ça, c'était particulièrement pertinent, je trouve, de la mettre sur la couverture. Et là, vous l'avez bien dit, il y avait concurrence de symboles, il aurait fallu une couverture mosaïque, on aurait perdu peut-être notre lectorat, et on s'est dit finalement, ça claque, c'est très bien. J'ajoute un petit élément, le livre, parmi ses surnoms, outre la NHF, il a un autre surnom, et c'est des internautes qui l'ont donné, et je le revendique, le grand livre rouge. Alors, par référence au petit livre rouge, attention, on ne fait pas de l'idéologie, nous, mais allez, si on a le 10e du succès du petit livre rouge, j'en serais content.
Alors, on découvre de véritables chapitres qui sont très substantiels, autour de 20 000 signes et des coûts d'éclairage plus rapides de 1500, 3000 signes. Pourquoi ces deux niveaux finalement et comment se rencontrent-ils?
Alors l'idée était dans le chapitre d'avoir une synthèse. Alors c'est un tour de force. Je vais donner un exemple. Michel, j'ai fait appel à vous bien évidemment pour un chapitre et c'est le chapitre État. Et c'est un tour de force que de traiter l'État, dont l'ancrage est médiéval, mais qui s'est développé à l'époque moderne que vous connaissez bien. Et puis bien évidemment, on connaît son rôle dans la constitution de la nation et le rôle qu'il joue aujourd'hui, que certains critiquent d'ailleurs en estimant que l'État est beaucoup trop intrusif. Et donc, tour de force de rédiger une synthèse en 20 000 signes, mais c'est votre cas, mais c'est le cas pour d'autres chapitres, hein, on est bien d'accord.
Je crois que j'ai dépassé un peu.
Oui, il y avait une petite marge de tolérance de 4 à 5 000 signes, donc de 20 000 à 25 000 en fait. Et puis je me suis dit, voilà, là, nos lecteurs, ils ont la base. Et puis à côté de ça, il faut aborder, mettre l'éclairage, d'où le terme d'éclairage d'ailleurs, sur des points qui peuvent d'une part les faire rêver, les séduire, les surprendre et compléter un petit peu le contenu. Parce que pour certains auteurs, c'était extrêmement frustrant. Par exemple, vous traitez État et vous ne pouvez dire que deux phrases de Richelieu. Eh bien, dans l'éclairage, vous avez Richelieu. Et donc, comme ça, ces éclairages, ils sont très variés. Vous avez beaucoup de personnages historiques. Et je m'empresse d'ajouter beaucoup de femmes, puisqu'on a 23 portraits, grands portraits de femmes, des femmes incontournables. On a bien évidemment Jeanne d'Arc. C'était impensable de ne pas la mettre. On a, je donne un deuxième exemple, Louise Michel. Impensable de ne pas la mettre en éclairage, mais on essaie de faire découvrir des femmes peut-être un petit peu moins connues. Alors je pense à Marie Marvin, la grande sportive du 20e siècle, qu'on a redécouverte. Alors elle avait un côté un petit peu affabulatrice, mais en sport, elle a fait de très très grandes choses, et elle méritait un éclairage en soi. Donc des personnages historiques, des événements, des batailles, des livres qui me paraissaient extrêmement importants, ou des courants d'idées, ou encore des partis politiques, des objets. Par exemple, dans le chapitre 4e République, nous avons machine à laver. Et donc, je sais que cet éclairage surprend beaucoup et il fait réfléchir.
Pas moi, la culture matérielle, j'adore. Et comment s'est effectué le découpage chronologique? En particulier, quel est le point de départ, étant entendu qu'on va jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au président Macron? Et est-ce que tous les articles couvre véritablement toute la période, ou est-ce qu'il y en a qui sont simplement sur une partie de celle-ci?
Ah, ça c'est une très bonne question. Alors il y a deux questions en fait dans une. Oui, c'est-à-dire que le lecteur aura absolument tout depuis les Francs. Alors on n'est pas parti. Boucheron était parti, il avait dit voilà, on veut décentrer le propos de la préhistoire. Moi, je voyais difficilement dans un livre quand même sur la nouvelle histoire de France partir de la préhistoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'évoque pas, mais elle n'a pas un chapitre à part entière. Et puis, nous évoquons les Gaulois, mais nous les évoquons ailleurs. Nous ne les évoquons pas, bien sûr, dans la partie grand récit de l'histoire de France. On les évoque dans Patrimoine et Identité, puisqu'il n'échappe à personne qu'il y a cette fameuse formule qui date de la Troisième République, nos ancêtres les Gaulois. Et j'ai demandé en fait à Dominique Garcia, qui dirige l'INRAP, l'Institut National de la Recherche Archéologique et Préventive, qui est un très très grand spécialiste des Gaulois, de nous les évoquer. Et parmi les éclairages, je reviens aux éclairages, il nous donne Astérix le Gaulois. Donc voilà, il s'est beaucoup amusé à faire ce petit éclairage pour voir un petit peu le mythe, la légende des Gaulois. Donc pour reprendre ce que vous dites et achever de répondre à la première partie de votre question, tous les régimes, le grand récit sont là, des Francs jusqu'à la Ve République, en passant par les Capétiens directs Dominique Barthélemy, les Valois Didier Le Fur, le siècle de Louis XIV Lucien Belli, et puis bien évidemment les Lumières, l'enchaînement des Cinq Républiques. Je me suis réservé Deuxième République et Second Empire. Donc tout est là. Et puis trois chapitres entiers sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est une thématique très très importante. Et donc nous avons, c'est ce que j'appelle la Dream Team, excusez l'anglicisme, c'est le seul que je fais, je vous promets, dans cette émission. Olivier Viavorca, le chapitre général. Laurent Joly, qui fait l'actualité avec son livre sur la collaboration, son histoire du régime de Vichy, qui vient de sortir. Et puis Jean-François Muratiol, qui est l'auteur du petit que sais-je sur la résistance, qui nous donne résistance. Et puis alors, il y a un deuxième aspect dans les chapitres thématiques. Est-ce qu'on remonte au Moyen-Âge pour aller jusqu'au temps présent ? Globalement, oui. Hein, c'est la charge que j'ai donnée aux auteurs. Reprenons sculpture ou peinture. Donc, Anne Pinjot, d'une part, sculpture, et Barthélémy Jobert, peinture. Ballet, en fait, ou littérature avec Robert Kopp. Ballet, toute l'histoire par rapport à leur thématique. Mais bien évidemment, il y a des sujets qui ne s'y prêtaient pas. Et je vais vous donner un exemple. Franc-maçonnerie. Alors, franc-maçonnerie, on part du XVIIIe siècle pour aller jusqu'au temps présent. Mais même, regardez, liberté, égalité, fraternité. On pourrait s'imaginer qu'on démarre en 1789. C'est ma collègue bien-aimée Jacqueline Lalouette qui nous a donné ce chapitre. Mais Jacqueline rappelle que liberté, égalité, fraternité, c'est dans la Bible. Donc on remonte beaucoup plus haut. Et ceux qui sont les vrais inventeurs, il y a des occurrences sous la Révolution, mais de ceux-là, ce sont les révolutionnaires de 1848 qui étaient extrêmement empreints de christianisme. Donc ça n'est pas un hasard s'ils ont proposé ce triptyque pour devise de la République.
D'accord. Alors l'histoire est souvent un champ de bataille, on y faisait allusion tout à l'heure, où s'affrontent des idéologies. Il se trouve que ces dernières années, des entreprises politiques de toutes sortes ont essayé de s'approprier l'histoire de France, tel aspect du passé, de façon partielle, parfois très souvent partielle. C'est pourquoi il fallait vraiment une nouvelle histoire de France, intégralement revue, faire un peu le point sur l'historiographie, faire connaître les nombreuses avancées historiographiques dans le public. Quelle est votre position par rapport à ces débats? Quelle est également la place accordée aux nouveaux champs historiographiques, comme l'histoire des femmes, on y a fait allusion, ou encore l'histoire de l'environnement?
Oui, ça c'est très très important. Comme je le disais, c'est l'un des trois objectifs de l'ouvrage, que d'essayer de sortir de ces perpétuelles polémiques entre historiens. Alors, sans perdre vos auditeurs, bien évidemment, il faut que je revienne un tout petit peu sur le passé. Vous savez que pendant longtemps, on a fait ce qu'on appelle le roman national. Et on avait, alors, c'est hérité de la... Même si le terme est très contemporain, roman national, mais c'est hérité de l'histoire à la Ernest Lavisse, donc de la Troisième République. On faisait un syncrétisme, on mêlait l'histoire des rois, mais on écartait certains rois pour n'en prendre que d'autres, qui étaient consensuels. Et puis, bien évidemment, l'idée, c'est que tout amenait à la République et que notre histoire, elle était un petit peu à l'eau de rose. Donc ça a été l'histoire qu'on a fait pendant très longtemps et qu'on a enseigné aux enfants. Et puis dans les années 60-70, il y a eu une œuvre de déconstruction complète qui a eu, attention, je ne suis pas caricatural, ses mérites parce que ça nous amène à réfléchir. Mais le mouvement de balancier a été parfois extrêmement radical. Et je rappelle que le postmodernisme consiste également à ancrer le monde dans le présent et dans l'avenir, en effaçant d'une certaine façon le passé. Donc l'histoire, qui longtemps a été la discipline reine en sciences humaines et sociales, n'avait plus du tout le beau rôle. Et de ce fait, il y a une crispation des Français, je ne jette la pierre à personne encore une fois, et il y a un retour en force d'un roman essentialiste, identitaire en France. Et aujourd'hui, je dirais, les deux camps s'affrontent presque à armes égales. Et nous, voilà, on veut s'élever. On veut élever nos compatriotes un peu plus haut en disant, il faut tout dire. Parce que la population française aujourd'hui est une population mêlée, comme elle l'a toujours été. Mais malgré tout, nous avons une histoire qui est très riche. Il faut que nos jeunes connaissent cette histoire. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Et puis la deuxième, pour bien connaître l'histoire, il faut faire un peu d'historiographie. Alors, on ne fait pas une historiographie savante. Encore une fois, il n'y a pas de notes de bas de page dans l'ouvrage. Mais on essaie de mettre à la portée de nos lecteurs, en fait, toutes les avancées récentes et toutes les nouvelles thématiques. Alors, très justement, Michel, vous avez pointé l'histoire des femmes et du genre, qui depuis une quarantaine d'années est devenue très, très importante. J'ai demandé à ma collègue Yannick Ripa, qui en est l'une des meilleures reconnaisseuses, de nous donner carrément, alors là, pour le coup, deux chapitres. Il y a elle nous propose féminisme, donc une histoire du féminisme depuis les origines jusqu'à nos jours. Et Yannick distingue, elle est l'une des grandes à l'avoir fait pour la première fois, trois âges du féminisme. Elle décrypte un petit peu tout ça pour le grand public. C'est, je trouve, un chapitre très, très lumineux. Et puis, elle nous donne également histoire des femmes et du genre. Donc, depuis Christine de Pizan, depuis le Moyen-Âge, jusqu'à nos jours, et à MeToo et à l'affaire de Mazan. On évoque aussi cette dramatique affaire de Mazan. Et puis, vous évoquez une deuxième thématique parmi les grands renouvellements. C'est bien évident, on ne peut plus en faire l'économie aujourd'hui. La crise environnementale terrible que nous traversons. Et aujourd'hui, dans l'historiographie, beaucoup d'historiens s'y attellent. Et j'ai demandé sans doute au meilleur spécialiste, Charles-François Matisse, d'ailleurs il dirige le comité scientifique rattaché au ministère. C'est pas par hasard que c'est à lui qu'on a demandé, donc, de nous faire un chapitre environnement et écologie. Et petite anecdote, son chapitre, c'est l'un des très rares, était beaucoup trop historiographique, mais je comprends pourquoi il a fait ça, parce que la thématique est nouvelle. Donc il mettait beaucoup, et je lui ai dit, écoute, c'est époustouflant d'érudition, mais pense que nous, on vise, allez, peut-être 50 000, 100 000 lecteurs, et donc là, ils vont être perdus si tu cites 40 noms en 20 000 signes. Donc donne les 5-6 noms qui te semblent fondamentaux, qui ont renouvelé l'historiographie. Et puis, il y a une petite bibliographie en fin de chapitre. Tu renverras, tu auras cinq titres pour te proposer d'autres noms.
Oui, tout à fait. On a 5-6 livres à la fin de chaque article. Il est évident qu'on ne pouvait pas mettre de notes. C'est absolument évident. L'éditeur aurait hurlé. Et donc, c'est suffisant si on a envie d'aller plus loin. Je voudrais revenir sur un événement récent qu'on a vécu tous les deux et qui nous a tous profondément marqués, c'est l'incendie de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'il révèle d'une identité française ?
Alors, Notre-Dame, je me suis posé la question, parce que vous avez entièrement raison, Michel, l'événement est tout à fait marquant et il révèle beaucoup de choses de notre identité. Donc, il fallait à tout prix qu'il y ait Notre-Dame. Je me suis posé la question, d'où le mettre ? Et finalement, on a mis Notre-Dame dans le chapitre patrimoine architectural en demandant à Alexandre Gady, qui est un spécialiste de l'histoire de l'architecture, de faire le chapitre. Mais Alexandre Gady, c'est un historien de l'art qui est très tourné vers la contemporanéité, bien évidemment. Et à la fois, il nous propose, et c'est très bien qu'on évoque en fait cet éclairage, parce que là, vous avez en une page tout le pari du livre. C'est-à-dire Notre-Dame, ça nous renvoie à notre passé chrétien, et Dieu sait que cette cathédrale est importante pour la France. Un très grand nombre d'événements de notre histoire s'y sont déroulés, hein, du vœu de Louis XIII, en passant par la déchristianisation sous la Révolution, les sermons de Lacordaire au XIXe siècle. Moi qui suis XIXe-iste, il y a des sermons magnifiques de Lacordaire, mais avant, le sacre de Napoléon, bien évidemment, qui est aussi évoqué. Et puis quand on pense au général de Gaulle, c'est le Tédéum de la Libération d'une part, et puis ce sont ses funérailles. Donc si vous voulez, c'est en soi, Notre-Dame raconte toute notre histoire. Et puis il y a cette chose extrêmement choquante qui nous a tous bouleversés, je crois que l'immense majorité des Français ont été bouleversés, c'est l'incendie. Et Alexandre consacre le dernier paragraphe en fait de son éclairage à évoquer le fait que les Français ont été bouleversés, qu'il y a eu un grand élan pour la reconstruction, et que nous avons cette cathédrale reconstruite. Et je crois qu'elle n'a jamais eu autant de visiteurs depuis que, de nouveau, elle est ouverte au public. Et c'est très, très bien comme ça.
Alors, j'ai immédiatement pensé, quand j'ai vu le livre et ouvert le livre, j'ai immédiatement pensé au lieu de mémoire de Pierre Nora. Quelle place pour ces lieux de mémoire dans la nouvelle histoire et quelle évolution dans leur traitement ? On vient de l'aborder un petit peu au travers d'Alexandre Gady. Voilà.
Oui, alors ça c'est très bien, c'est très très bien qu'on évoque Pierre Nora, parce que Pierre Nora, figurez-vous, je remonte un tout petit peu, mais vous allez voir, je vais arriver au cœur de votre question, antérieurement, au moment où j'ai choisi mes auteurs, j'évoquais tout à l'heure quelques rares refus. Alors il se trouve que Pierre Nora, je l'avais contacté, je voulais qu'il fasse commémoration, de manière à faire un lien direct avec les lieux de mémoire. Et Pierre Nora, que je connaissais un petit peu avant, mais on a surtout beaucoup échangé à partir de cet email que je lui avais envoyé, il m'a tout de suite répondu, il m'a dit « Eric Anso, votre projet est absolument formidable, mais sachez que je vais vous dire non. Je vais vous dire non parce que je crois avoir tout dit sur commémoration, première chose. Ça m'a amené à faire des polémiques et au stade de ma vie où je suis arrivé, je ne veux plus polémiquer. Deuxième chose, mais surtout, surtout, votre livre va marquer, c'était extrêmement flatteur, j'ai gardé bien évidemment tous ces courriels, un troisième moment de l'historiographie fondamentale. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez peut-être avec votre livre, si vous tenez le pari que vous m'indiquez là, réussir non pas à mettre tous les Français d'accord, non pas à mettre tous les historiens d'accord, les historiens aiment bien se quereller, mais vous allez survoler le débat. Et votre livre, on va en parler très longtemps. Et il m'a dit... C'est mieux à la limite que je ne sois pas dans votre livre, parce que sinon on va trop vous rapprocher avec les lieux de mémoire. Alors je dirais, le livre est à la fois différent des lieux de mémoire, mais s'y rattache. Il s'y rattache en particulier dans la quatrième partie qu'on a évoquée, qui s'appelle « Patrimoine et identité ». Et nous avons 6 collègues sur les 100 qui étaient dans les lieux de mémoire. Alors je vous donne quelques noms. Honte à moi parce que je vais en oublier, c'est sûr, mais je vous donne 3-4 noms. Il y a Yves-Marie Bercé, qui est le doyen de nos auteurs, hein, et il était déjà dans les lieux de mémoire. Jean-Clément Martin, spécialiste de la Révolution française, était aussi dans les lieux de mémoire. Et mon ami Christian Amalvi, qui nous a donné Panthéon au pluriel, et qui figurait déjà dans les lieux de mémoire. Donc voilà 3 exemples d'historiens qui font la passerelle, hein, entre les lieux de mémoire et la nouvelle histoire de France.
Alors, une telle somme va marquer le monde de l'édition, c'est tout à fait évident, et du livre d'histoire. Mais quel public vise-t-on ? Un public d'étudiants, d'érudits, des collègues, des simples curieux de l'histoire de France ? Quel public ?
Écoutez, Michel, ça va paraître peut-être très prétentieux à vos auditeurs, ceux qui vont voir cette vidéo. Je dirais tout le monde. C'est ça le pari du livre. C'est un livre d'historiographie, donc on s'adresse à nos collègues, aux étudiants. Et quand je fais des signatures, il y a énormément d'étudiants, énormément de jeunes. Et moi, ça me fait immensément plaisir parce que c'est eux qui portent l'avenir, hein. Donc c'est très clair que, et je suis comme vous, professeur de l'enseignement supérieur, et c'est notre mission, bien évidemment. Vous êtes d'une famille d'enseignants, moi je ne le suis pas, mais voilà, la transmission, c'est l'un des plus beaux mots de la langue française, et ça c'était un objectif. Mais on vise également le grand public, hein, bien évidemment, et les érudits. Et dans le débat, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai eu plusieurs débats à Blois, mais j'en ai eu un dont on a un petit peu parlé. Il y a une collègue qui disait, voilà, moi, mon livre, c'est pour aller sur la plage. Alors moi, je vais dire, notre livre, c'est pas pour aller sur la plage, parce qu'il fait 1,640 kg et il fait 1100 pages. Mais c'est le livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. D'ailleurs, les recensions disent ça, hein. Même certaines, il y en a certaines qui nous égratignent un tout petit peu, mais à la marge, en disant... C'est une somme, un monument, ça revient systématiquement, et le livre qu'il faut avoir dans toutes les bibliothèques. Eh bien, si on tient ce pari, on aura gagné, me semble-t-il.
Alors, vous avez fait allusion à Blois, vous sortez des Rencontres de Blois, qui sont maintenant un carrefour des historiens français, et qui étaient justement consacrés à l'histoire de France. Alors, comment ça s'est passé ? Comment l'ouvrage a-t-il été accueilli ? Il était en tout cas au cœur de ces rencontres.
Oui, un véritable marathon. Alors, petite anecdote qui va faire sourire vos auditeurs. Vous savez que la thématique de l'année suivante est toujours révélée le dimanche soir du dernier jour. Et l'an dernier, alors je n'étais pas du tout sur mon téléphone ou sur Internet, je travaillais, d'ailleurs je crois que je relisais un chapitre, pour tout vous dire, du futur livre. Et là, je reçois un SMS d'Anne Pinjot, qui est une dame qui a plus de 80 ans, un SMS. Et elle me dit... Éric Anceau, c'est pour vous et c'est pour nous. Et oui, puisque il a été choisi la France, point d'interrogation. Donc, on savait qu'on serait très présent au rendez-vous de l'histoire de Blois. Et écoutez, ça a été un marathon, puisque j'ai fait 60 heures au rendez-vous de l'histoire de Blois. Beaucoup de signatures, donc ça, c'est très réjouissant. 4 émissions de télé... 3 débats, 2 émissions de radio, des blogs, des podcasts. Donc, un marathon, je suis sorti épuisé, mais j'étais très content. Alors, il y a eu un moment un petit peu polémique, mais je crois que les organisateurs voulaient ce moment. C'est un grand débat entre les auteurs des précédentes histoires. Donc, il y avait, si on les reprend chronologiquement... l'immense somme en plusieurs volumes de Joël Cornette. Il y avait bien évidemment Claude Gauvard, notre éminente médiéviste, qui était là également. Il y avait Patrick Boucheron, bien sûr, et il y avait Laurence de Kock, et moi-même, dernière en date de la nouvelle histoire. Et la manière dont le débat a été modéré m'a un tout petit peu gêné, parce que j'ai senti, je ne donnerai pas son nom, mais que le journaliste était un petit peu de parti pris, à tel point que visiblement, dès la première question, c'est en ligne maintenant, hein, les auditeurs pourront vérifier, il n'avait visiblement pas ouvert tout le livre, ou disons qu'il avait une lecture un petit peu orientée du livre. Donc d'emblée, j'ai été attaqué, dès la première question. Et ça a été comme ça un petit peu tout du long, mais je ne suis pas du genre à me défiler. Donc il y a eu un débat qui a été, on va dire, musclé, mais franc et courtois, parce que nous sommes entre gens de bonne compagnie. Voilà. Je crois que, bon, les organisateurs voulaient un petit peu de débat. Ce débat avec Patrick Boucheron, je l'avais eu précédemment également dans Marianne. Il avait été plus apaisé. Les lecteurs pourront y faire retour, puisqu'il est également sur le site de Marianne. Il a été un petit peu plus tendu à Blois. C'est, on va dire, je ne suis pas un homme de polémique, et c'est le moment, je dirais, que je garderai, non pas comme un mauvais souvenir, attention, mais comme un moment dans des rendez-vous de l'histoire de Blois qui ont été idylliques, comme un moment un petit peu tendu. Voilà. Mais il fallait peut-être passer par là.
Oui, d'accord. Alors, je vais à mon tour poser une question peut-être un petit peu polémique. Didier Le Fur, qui réalise le dernier article, reprend une affirmation de Philippe Joutard et intitule son article « Histoire, une passion française ». Il constate que Clio est le pivot d'une culture, alors que les dernières, aujourd'hui, on est dans de nouvelles réformes au niveau universitaire, et elles vont nous faire recruter nos futurs enseignants au niveau licence sur les programmes du secondaire. Ma question est simple, ne risque-t-on pas un certain appauvrissement de cette culture qui est une originalité française? Les Français adorent les émissions historiques. Les Français ont, c'est vrai, une véritable culture en histoire. Je me souviens que dans les années 1980, dans des circonstances un peu similaires, face à une réforme, la voix d'Alain Decaux s'était dressée contre les réformes de l'époque. Aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a d'autres événements qui expliquent peut-être en partie cela, les voix sont un peu inaudibles. Mais la passion ne risque-t-elle pas de s'étioler et de s'éteindre si on n'assure pas un minimum de savoir à nos jeunes qui ne demandent que ça, mais qui, avec l'évolution des techniques aujourd'hui, ont véritablement besoin d'un livre comme l'Histoire de France? Est-ce qu'on ne risque pas, avec cette réforme, d'amenuiser les connaissances historiques de la population française?
Et je le pense aussi, cher Michel, vous avez entièrement raison. Alors, le chapitre de Didier Le Fur conclusif, c'est « Histoire, une passion française ». Je voulais vraiment ce chapitre pour poser les choses. Et vous évoquez bien évidemment Philippe Joutard. Il y a aussi Antoine Pro, hein, qui disait que le peuple français est un peuple passionné d'histoire, peut-être plus que d'autres, et passionné de politique. Et d'ailleurs, alors, on évoquait tout à l'heure la polémique, mais nous aimons bien surtout aussi débattre, et souvent l'histoire est au cœur de nos débats. Donc ça, c'est plutôt bon signe, parce qu'on fait avancer les choses, et après, les Français peuvent choisir, mais tout cela fait vivre l'histoire. Ce qui m'inquiète, effectivement, c'est que nos jeunes lisent moins, et que les réformes successives de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et à la jointure des deux, comme vous le dites, des concours de recrutement, risquent de réduire la position de l'histoire. Alors aujourd'hui, avec les programmes, en particulier ceux de lycée, on est sorti, me semble-t-il, récemment des polémiques qu'on avait, vous savez, chronologie, pas chronologie. Je trouve que de ce point de vue, les programmes sont relativement équilibrés. Ce qui me pose, ou Histoire Monde, Histoire France, je trouve que c'est très équilibré. Par contre, ce qui me gêne, c'est la réduction de la part en charge horaire de l'histoire. Hein, et on fait de moins en moins, on a de moins en moins de temps. Et nos collègues doivent traiter des programmes qui sont astronomiques dans un temps qui est plus réduit, parce qu'on manque d'argent, etc., etc. Et ça se retrouve un petit peu dans cette fameuse réforme que vous évoquiez, puisque maintenant, on va réduire la part du savoir académique pour recruter les collègues certifiés de l'enseignement secondaire. Et ils vont être de très bons généralistes, mais est-ce qu'on a besoin de très bons généralistes? Parfois, il faut aussi être spécialiste pour bien maîtriser les problématiques et entre autres l'historiographie. Attention, pas qu'il faut faire de l'historiographie au collège et au lycée, mais il faut bien maîtriser tout ça, parce que quand vous avez un sujet très très chaud, comme les questions coloniales, comme l'Algérie, comme la Deuxième Guerre mondiale, si vous ne connaissez pas les débats historiographiques, vous pouvez faire devant vos élèves de grosses erreurs, les élèves posent des questions et vous pouvez être en porte-à-faux. Et donc là, je trouve qu'on, par souci d'économie, ou par souci d'avoir des généralistes dans l'enseignement secondaire, on a poussé beaucoup trop loin le curseur. Et pour tout vous dire, et je vous rejoins parce que j'ai compris qu'implicitement dans votre question, vous-même, vous étiez un peu de mon point de vue, je suis moi-même très très inquiet par ces réformes.
Oui, en croyant qu'on va régler les problèmes du recrutement, qui sont réels à l'heure actuelle, j'ai vraiment très peur que ça soit exactement le contraire. Parce qu'à l'heure actuelle, le nouveau concours n'attire pas les étudiants, bien au contraire, et les étudiants s'inscrivent en master recherche pour faire 2 années de plus, parce qu'ils ont, en tout cas les meilleurs d'entre eux, c'est une évidence, parce qu'ils ont une peur panique de ce nouveau concours qui est très très mal défini. Donc bon, voilà. Bien, en conclusion, je dirais que ce livre est un très beau cadeau de Noël pour la fin de l'année. Nous approchons de Noël et je crois que c'est une solution toute trouvée à la question qu'on se pose tous à la veille du 25 décembre. Voilà. Merci beaucoup Éric Anceau d'abord pour ce livre et puis pour cet entretien toujours si agréable à la librairie Mola. Et merci à la librairie Mola.